Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
De retour sur les ondes de CFA 88.3 FM. Alors, deuxième sujet aujourd'hui, et non des moindres, immigration et logement au Québec. De réalité brûlante, de priorité politique majeure, de source d'inquiétude dans l'espace public, et de plus en plus souvent, de cibles qu'on associe, qu'on oppose et qu'on confond. La question que je vous propose, c'est celle-ci. Est-ce que la hausse de l'immigration est responsable de la crise du logement au Québec? Où est-ce qu'on assiste en réalité à une simplification politique d'un problème plus complexe? C'est une question sensible, mais dans cette émission, on prend le temps, on respire, on regarde les faits, on analyse, et proposons d'abord le décor. Oui, le Québec, comme le reste du Canada, connaît une poussée migratoire sans précédent. En 2023, le Québec a accueilli plus de 150 000 nouveaux arrivants, un record, et à l'échelle canadienne, on parle plus de 1 million de personnes en une seule année. Dans le même temps, la province traverse une grave crise du logement. Premièrement, le loyer explosant, l'offre ne suit pas la demande. Deuxièmement, le taux d'inoccupation est plus en plus bas, souvent inférieur à 1% dans les grandes villes, et des milliers de ménages cherchent, désespèrent pour avoir un toit. Alors, forcément, l'équation semble simple. Plus de demandes, moins de logements, donc plus de pression. Et beaucoup de voix politiques établissent un lien direct. Mais est-ce si simple? Car l'immigration, ce n'est pas juste des chiffres, ce sont des profils de réalités différentes. Il y a des travailleurs temporaires, les étudiants internationaux, les réfugiés, les regroupements familiaux, les émigrants économiques. Tous n'ont pas le même impact sur le marché locatif. De plus, une bonne partie de personnes immigrantes n'arrivent pas seules. Elles rejoignent des familles, elles vivent en cohabitation. Elles s'installent souvent dans des logements déjà occupés ou dans des quartiers précis. Et surtout, beaucoup peinent à trouver un logement décent, faute de revenus suffisants ou à cause de discrimination. Alors, où est le vrai problème? Il est du côté de l'offre, d'abord. Selon plusieurs rapports, le Québec a un déficit de 100 000 à 120 000 logements. Et les projets de construction sont ralentis par les hausses des taux d'intérêt, le manque de manœuvre, les coûts des matériaux aussi exorbitants, les obstacles bureaucratiques. Autrement dit, même sans immigration, le Québec ferait face à une pression immobilière importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CMHC, la Société canadienne hypothèque du logement, qui affirme que la pénurie actuelle est avant tout, elle est structurelle. Elle remonte à des années de sous-investissement dans le logement social abordable ou locatif. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'immigration n'a aucun effet. Elle a quand même un effet qui est modéré, concentré géographiquement et souvent compensé par la contribution économique des personnes immigrantes. Pourquoi? Parce que ces personnes travaillent, paient des impôts, ouvrent des commerces, participent à la vitalité des villes et soutiennent des secteurs et pénuries de main-d'œuvre. Et sans l'immigration, il n'y aurait pas, en fait, tout simplement pas assez de gens pour faire tourner l'économie du Québec, ni pour financer nos écoles, nos hôpitaux et nos routes. Alors, d'où vient cette tendance à tout mettre sur le dos de l'immigration? Elle vient, à mon avis, de deux éléments centraux. Alors, premièrement, la perception de rareté et aussi, je trouve, la récupération politique. La perception de rareté, je le vois comme les loyers augmentent, on cherche des coupables. Et c'est plus facile de pointer les nouveaux venus que de questionner les promoteurs immobiliers, les décisions politiques ou les modèles économiques dominants. Et en ce qui concerne la récupération politique, certains partis utilisent la crise de logement pour proposer une réduction des seuils d'immigration. Ça frappe l'opinion quand même, car ça donne une impression de solution rapide, mais ça ne règle rien au problème de fond. Regardons maintenant ce que disent les économistes. Des études récentes, comme celle de l'Institut du Québec ou de l'IREC, montre que le lien entre l'immigration et le logement est indirect. et que le principal levier d'action est du côté des politiques publiques. Accélérer la construction, financer les logements sociaux, réformer les processus d'octroi de permis, encadrer la spéculation, favoriser la densité urbaine. Autrement dit, on peut accueillir et construire à condition d'avoir une planification cohérente et une volonté politique forte. Et parlons aussi d'un angle souvent oublié, c'est le potentiel économique de l'immigration dans la relance du secteur et du logement lui-même. Beaucoup de nouveaux arrivants ont des compétences quand même dans la construction, en architecture, en ingénierie, en urbanisme. Si on lève les barrières de reconnaissance des diplômes, on peut faire de l'immigration une solution de la crise, plutôt qu'un facteur de crise. Alors, pour conclure, je dirais que le lien entre l'immigration et le logement existe bien sûr, mais il n'est ni direct ni détriment. C'est un lien complexe médié par d'autres variables comme les politiques de logement, l'organisation des veilles, fiscalité foncière ou encore le rôle des investissements privés. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde qui font l'automatisation de cette crise, c'est parce que l'État n'a pas anticipé, pas assez construit, pas régulé suffisamment et pas donné de moyens aux municipalités. Mais cette crise, aussi grave soit-elle, peut être un point de bascule, une occasion de refonder notre modèle d'accueil et notre politique de logement. Car économiquement, il faut penser aux dynamiques et non aux réflexes de court-termistes. Si l'on regarde vers les années à venir, le Québec va faire face à un vieillissement accéléré de sa population. Il y aura une pénurie de main-d'œuvre et une pression croissante sur les services publics. Dans ce contexte, l'immigration ne peut pas être réduite drastiquement. Ce serait suicidaire pour l'économie. Il faudra continuer à accueillir, mais mieux, avec un capital humain qualifié. Et avec plus d'organisation, de logement, de soutien d'intégration. De même, cette crise du logement pourrait marquer la fin d'un cycle, celui d'un marché immobilier dérégulé, dominé par les logiques spéculatives et où le logement est un actif avant d'être un droit. On pourrait imaginer, si on agit maintenant, un nouveau cycle fondé sur une offre diversifiée comme coop, logements sociaux, logements abordables, ou bien une densification intelligente, une fiscalité qui incite à construire pour habiter, pas pour spéculer, et une planification urbaine à long terme. Dans ce modèle, l'immigration ne serait pas un problème à gérer, mais ça serait comme une richesse à intégrer dans une vision cohérente de développement économique et social. Et soyons clairs, ces défis ne se concernent pas que sur le Québec, mais partout dans le monde. Les grandes métropoles sont confrontées à des tensions entre démographie, logement, environnement et mobilité. Montréal n'échappe pas à cette pression, mais elle a les moyens d'innover à condition d'en faire un projet collectif inclusif et durable. Bref, l'immigration n'est pas la cause de la crise de logement. Elle est l'un des éléments d'un écosystème urbain et économique plus large, que nous devons revoir une lucidité et ambition. Si on prend cette crise comme un révélateur plutôt qu'un prétexte à la fermeture, alors elle peut être l'amorce d'une réinvention, celle d'un Québec plus équitable, plus planifié et plus accueillant. Vous êtes toujours à l'écoute de l'économie en mouvement sur CFAC 88.3. Après la pause, on se penche sur un autre sujet qui dévise la taxe carbone. Pourquoi tant de résistance et que risquons-nous en la supprimant? Je vous invite à écouter une chanson nouvelle qui s'appelle « Génération » de la part de Léna Bouchard.